Fleur au square, vision. Vous ne croyez pas aux revenants, vous avez tort. Certes, les revenants ne sont plus ces apparitions fantastiques d'autrefois, surgissant au coup de minuit dans les environs des cimetières, pour pétrifier de terreur quelques villageois attardés. Les fantômes se sont perfectionnés avec le temps. Ils ont marché avec le progrès. Et s'ils pénètrent encore chez les vivants sans se faire annoncer, au moins gardent-ils dans le monde la tenue irréprochable des vrais gentlemen. J'en ai connu un seul, dont les assiduités m'ont absorbé pendant 6 mois. Dire que je regrette son départ, non, mais en somme, je dois lui rendre cette justice qu'il était un fantôme de bonne foi et d'esprit. Voici la chose. Il y a quelques années, par une calme soirée d'hiver, je travaillais au coin de mon feu à, je ne me souviens plus quel poème, lyrique. J'étais un peu souffrant, quand j'entendis nettement frapper à ma fenêtre. D'abord, je crus à l'étourderie de quelque oiseau de nuit, battant mes volets d'un coup d'air, mais le bruit se répéta avec des intermittences régulières. Toc, toc, toc. Je levai le nez, vaguement inquiet, pas trop décidé à m'en rendre compte. Sachez que j'habite au 4e étage, sans balcon ni terrasse, dans un faubourg silencieux, assez désert. Mais on frappa de nouveau, plus vite, dans un mouvement d'impatience nerveuse. J'allais à ma croisée et j'ouvris toute grande d'un coup. Devant ma fenêtre, dans le vide, une longue forme blanche était suspendue, arrêtée. Ce fut un instant tragique. Entre l'apparition et moi, un regard fut échangé, un de ces regards qu'avant le combat subissent les deux adversaires dans un duel au pistolet. Une angoisse et un défi. L'effroi de la mort et la résolution désespérée de se montrer brave. Combien de temps cela dura-t-il? Une minute? Une éternité? Bref, malgré ma stupeur, j'éprouvais une sorte de soulagement quand le spectre m'adressa d'une voix à peine distincte où je crus noter un vague accent britannique ces simples paroles. « Peux-tu entrer ?» Trop ému pour répondre, j'inclinai la tête et je m'efforçais devant mon viseur dans un geste hospitalier. Le spectre glissa dans ma chambre, doucement, poliment, avec un salut discret d'invité. Je lui montrai un fauteuil où il put s'asseoir. Tant qu'il bredouillait quelques notes de banales excuses, de son importun. Je suis important, mais sans doute désolé de vous déranger à cette heure. Croyez bien que... Non, je suis vraiment confus. On lui dit d'un électeur sollicitant une apostille son député. Je l'examinais. Ce fantôme appartenait au sexe fort et semblait âgé de 35 ans environ. Contrairement à la légende, il ne se présentait pas enveloppé d'un suaire, mais habillé. Habillé, vous m'entendez bien. C'est dire que dans son costume, qui n'était pas un costume, mais seulement une transparente vapeur, je démêlais un dessin moderne des coupes de veston. L'impression d'ensemble, physionomie et vêtements m'étaient favorables. À n'en pas douter, je me trouvais en présence de l'ombre d'un garçon bien élevé. Quand nous fûmes assis tous deux, il m'enveloppa d'un air décidé, d'un regard décidé, et « Allons au fait, me dit-il, tu ne me reconnais pas ?» J'avais repris un peu de calme, et c'est d'une voix assurée que je pus répondre « Oh non, pas du tout, cher monsieur. » Il haussa les épaules. « Je m'y attendais, » continua-t-il. « Ah, tu es bien resté le fourbe de jadis. Peu importe, tes délégations ne serviront point. Au surplus, je vais te confondre d'un mot. Te souviens-tu du morne rouge ?»«
Le morne rouge. » »«
Oui, je me rappelais le morne rouge. » C'est là-bas, à la Martinique, une superbe montagne derrière Saint-Pierre, avec des trigonocéphales dans toutes ses fourrées. Ah ben, je rencontrais, vivant, ce revenant, je cherchais, mais rien. Il poursuivit. Ah, tu hésites, tu es pris, hein? Eh bien, écoute. Oui, je suis le pauvre William Perkins, dont tu as volé la fiancée, ma pauvre petite Milia. Et le jour où tu es reparti sur la frégate, elle est morte. Je jurais de la venger. Le travail, la pauvreté me retenaient aux Antilles et m'empêchaient de vous poursuivre. Et depuis hier soir, je suis mort, je suis libre. À nous deux maintenant. Certes, je ne veux pas te tuer, mais je puis lui empoisonner ta vie. Désormais, je ne te quitte plus. Chaque soir, tu me trouveras à tes côtés et tu m'entendras te dire « Louis Vermont, souviens-toi du morne rouge !» Maintenant, je me sentais parfaitement maître de moi. Je me levais en hâte, décidé à ne pas poursuivre l'entretien et je prononçais « Cher monsieur, nous sommes en ce moment, vous et moi, les victimes d'un quiproquo. Vous vous serez trompé d'étage. J'ai traversé la Martinique et je n'ignore pas le morne rouge, mais je n'ai gardé aucun souvenir de demoiselle Milia dont vous avez bien voulu me raconter les malheurs. Non, je ne vous connais pas. » Le fantôme s'était dressé pour prendre congé. « Tu persistes à nier !» s'écria-t-il. « Soit. Mais tu es prévenu, désormais. Je m'attache à tous tes pas. » C'était mon tour de hausser les épaules. « Mon cher spectre, dis-je, vous avancez. À peine êtes-vous défunt et que vous avez déjà des idées de l'autre monde. Mais, mon garçon, nous avons perdu la superstition du fantastique. Pour employer une expression étrangère au dialogue des morts, mais qui rend bien ma pensée. Nous ne couperons plus dans ces gaudets-là. Si, malgré mes avis, vous teniez à revenir me faire visite, vous auriez bien tort de vous gêner. Je reçois tous les lundis. Mais ne vous flattez pas de me faire souffrir. Je suis un enfant du 19e siècle, et je ne crois pas au surnaturel. Louis Vermont, repartit l'ombre, souviens-toi du morne rouge. J'ouvris la fenêtre. Le spectre se retira après d'ironiques et brèves congratulations. Le lendemain, à mon réveil, je crus avoir rêvé une histoire d'Edgar Poe. Vers 3 heures, à la Chambre des députés, comme je causais avec l'honorable Paul Sandrick dans le Salon de la Paix, Je vis sortir de la muraille l'ombre de William Perkins, visible pour moi seul. Il se faufila entre le député de l'Aisne et moi, me regardant en riganant, et sans que mon interlocuteur pût entendre une syllabe, me parlant du Borne Rouge. D'abord, cela me déplut, mais je m'accoutumais bien vite. Au surplus, à moins de passer pour un fou, il m'est impossible de laisser percer mon trouble. Dans la soirée, William Perkins vint me rejoindre au théâtre des Variétés, prenant place à côté de moi, en un fauteuil vide. Je fus aimable et lui racontai les deux premiers actes qu'il n'avait pas entendus. À la sortie, il me suivit chez Henri Gervex, qui donnait du thé à ses amis, et comme vers 2 heures du matin, devant ma porte, il me reparlait des Antilles, je daignais l'éclairer encore. Mais je me nomme Charles-Marie de la Méjeanne et non pas Louis Vermont. Je ne suis allé à la Martinique que dans un but hydrographique. Milly m'est étrangère. J'ai conservé du Borne Rouge les pires souvenirs. Le fantôme me tourna le dos en ricanant. J'étais sincère. William Perkins reconnut bientôt qu'il ne me donnait aucune crainte. J'en venais à lui faire bon accueil. Et dès son apparition, je lui tendis la main. « C'est toi, mon vieux, et ça va bien ?» Il demeurait grave, figé, dans sa sempiternelle évocation des Antilles, et me nommait Louis Vermont toute la journée. « Patience, ricanait-il, un jour je parviendrai bien à te faire saigner, » je lui disais. « Dis donc, Perkins, je ne sors pas ce soir, est-ce qu'on te verra ? Ou bien... « Je vais au bal des artistes. N'oublie pas de venir me prendre à la sortie. Nous causons du Borne Rouge. » Rien ne le décourageait. Un jour, j'étais allé faire ma cour à Blanche, qui revenait d'une tournée lyrique en Égypte. Vous savez bien, Blanche, celle qui aimait tellement les bonbons que nous l'avions surnommée Blanche de Bastille. C'était au temps qu'elle habitait sa jolie villa de Maison Lafitte, où Jules Claressy a trouvé son décor du prince Ilan. Et comme j'étais à ma première visite, elle voulut me montrer son petit parc, sa basse-cour, les serres et même un petit garenne, où il n'y avait aucun lapin. Ce fut une bonne promenade. Nous cheminâmes lentement sous les arbres, nous arrêtant souvent pour regarder ensemble la même fleur ou le même arbuste, la même échappée de ciel bleu échancrée dans les branches. Les oiseaux nous saluaient de petites ritournelles agiles, les roses avaient des sourires, les grosses pivoines se penchaient dans les révérences, en imagination aidant, c'était gentil. Patatras, William Perkins me touche l'épaule et me montra son sourire des mauvais jours. Louis Vermont, le Borne Rouge, il tombait bien. Impossible de lui faire comprendre son manque de tact, pas moyen de l'interpeller. Sans doute il devint mon ennui, car son assistance s'accrut. Je le trouvais non plus à ma droite, mais à ma gauche, entre Blanche et moi, de sorte que je ne m'apercevrais presque plus Blanchette, et tant que je m'évertuais à ressaisir le fil de mes madrigaux brisé par cette intervention macabre, ce fantôme mal élevé me ramenait à son animal de Borne Rouge, au serpent de là-bas, à la désespérante Milia. Et il se passa une chose atroce. Tout à coup, Blanche s'arrêta, les regards fixés au sol. Des traces horribles s'imprimaient sur le sable, des traces de pieds nus. William Perkins, las sans doute de planer entre le ciel et la terre, ou bien mal intentionné, marchait entre nous, mesurant ses pas sur les nôtres. Blanche regarda sans comprendre, m'interrogea d'un coup d'œil et me vit si pâle, que devinant brusquement quelque chose d'épouvantable, elle s'évanouit en jetant un cri terrifié. Je la remontai inanimée au pavillon, toujours poursuivie par le ricanement de l'odieux Perkins. « Louis Vermont, souviens-toi !» À peine rentré, je remis la pauvre Blanche aux soins d'une camériste et je redescendis dans le parc où mon fantôme riait au point d'en pleurer. « Par exemple, m'écriai-je en l'abordant, j'en ai assez. Une explication est devenue nécessaire. Cette vie-là ne peut pas durer. » Et le misérable spectre riait toujours. « Voyons, continuai-je, je serai calme. Tant que vous êtes contenté de venir me retrouver au théâtre, à la chambre, chez mon coiffeur, je n'ai rien dit. Je trouvais même cela amusant d'avoir un revenant pour ami. Et cependant, oh, ceci n'est pas un reproche. Une conversation n'était vraiment pas assez variée. Mais aujourd'hui, ça ne va plus. Si vous devez m'empêcher de faire ma cour à cette prima donna qui a dû rapporter du Caire des idées ultra-orientales, je suis parfaitement résolu à vous infliger vos 8 jours. L'homme répondit. Je t'avais bien annoncé que j'arriverais à te faire pleurer. Louis Vermont, souviens-toi. Je ne le laissais pas achever. Depuis 6 mois, je vous répète, soir et matin, que je ne m'appelle pas Louis Vermont. Comme si je ne te reconnaissais pas. Mais quand je vous assure, nouveau haussement d'épaule. Inutile de feindre, dit Perkins. Je pourrais te peindre de mémoire. Tiens, tu as sur le bras droit, entre le poignet et le coude, un petit signe noir. J'avais déjà relevé mes manchettes et montré au fantôme un bras exempt de toute marque particulière. Aussitôt, la physionomie de feu Perkins se transforma. Il regarda mon bras de très près, à plusieurs reprises, et aussitôt, ensuite, avec l'accent d'un revenant profondément humilié. « Oh, monsieur !» s'écria-t-il, « quelle erreur ! Je ne sais où me fourrer. Oh, jamais pareil un père. Oui, en effet, quand je vous regarde bien, une telle ressemblance. Oh, c'est le nez, oh, sapristi, qu'est-ce que vous avez dû penser de moi ?» Et il continua de plus en plus vexé. « Tenez, je vous offre des excuses dans les journaux. Je me croyais déjà dans mon droit. Voulez-vous que j'aille trouver cette jeune dame et que je lui explique la chose ?»« Non, pas, non, pas. » Présentez Perkins à Blanche un comble. « Mais ce que je tiens à réparer. » Je consolais feu Perkins qui disparut pour toujours. Depuis, je ne l'ai plus revu de revenant. Mais je n'ai pas revu Blanche. Bon.